Bonjour à tous, ça va?
Oui, moi aussi ça va bien, ça va bien. Oh, j'ai des gens merveilleux qui viennent me poser des questions sur Facebook, Révélation Bible. Êtes-vous une secte? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Êtes-vous une secte? Alors, imaginons que nous sommes une secte. Est-ce qu'on va leur dire, oui, on est une secte? Êtes-vous... Non, mais franchement... Les gens sont bizarres quand même. Et voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est une secte? Qu'est-ce que c'est une secte? On est toujours la secte de quelqu'un d'autre. Je crois que ce qui est important pour chacun de nous personnellement, c'est d'être certain d'être à la bonne place et de faire la volonté de Dieu. Amen.
Amen.
Si vous êtes là où vous êtes et que vous êtes certain de faire la volonté de Dieu, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, bon, vous êtes tombé sur nous. Vous savez que si vous avez reçu un message Facebook, sur Facebook à notre sujet, c'est pas parce que moi je vous ai contacté. C'est Facebook qui vous a contacté. Selon vos critères d'intérêt. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas moi qui suis venu vous chercher. Or, si ça vous plaît pas, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ben, vous nous bloquez. Et puis voilà, c'est tout simple. C'est pas plus compliqué. Mais ne nous insultez pas, ça sert à rien. Moi, je vous connais pas. Je l'ai vécu jusqu'à aujourd'hui sans vous. Ça... Voilà. Maintenant, si on vous dérange, c'est pas mon problème, c'est Facebook qui vous a choisi parce que vous devez parler certaines fois de spiritualité ou de choses comme ça. Donc, ils vous ont choisi pour pouvoir écouter ce que j'ai à dire parce qu'ils ont pensé que ça vous ferait du bien. Voilà. Enfin, qui ils, ça j'en sais rien, c'est peut-être une machine, Facebook, j'en sais rien. Je sais pas comment ça marche. Mais toujours est-il que voilà, c'est comme ça. Et alors... Non, nous ne sommes pas catholiques. Non, nous ne sommes pas protestants réformés. Non, nous ne sommes pas baptistes. Non, nous ne sommes pas pentecôtistes. Nous ne sommes pas branhamistes. Nous ne sommes pas mormons. Nous ne sommes rien du tout. Nous sommes simplement des chrétiens qui nous réunissons et qui nous aimons les uns des autres. Et puis voilà, puis c'est tout. Alors oui, j'ai été ordonné pasteur. Ça s'est passé en 1979. C'est le grand évangéliste T.L. Osborne qui m'a ordonné, avec tout le conseil d'administration de la Fondation, qui est représenté dans 70 pays et qui crée à peu près 2000 églises par an. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je n'ai pas de compte à rendre à la Fondation Osborne, simplement, nous entretenons de bons rapports. Voilà qui nous sommes des chrétiens qui avons pour but d'évangéliser et aussi d'aider les chrétiens à se fortifier dans leur foi. Alors ce matin, on va étudier encore un peu la parole de Dieu pour fortifier votre foi. Alors on va lire Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 10. Ok, ça va? C'est clair un peu ce que j'ai dit? Ça peut aller, ça peut passer? Vous m'en voulez pas? J'ai dit du mal de personne, c'est bien. Apocalypse 10, 1, 10. Alors, c'est Jean qui parle et qui dit « Je vis un autre ange puissant descendre du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis une voix qui disait « Marque du sceau du secret, ce qu'ont dit les sept tonnerres, ne l'écris pas. » Alors l'ange, que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et qui s'y trouve, et la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de délai, mais quand viendront les jours où l'on entendra le septième ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Alors, on va parler de cela dans notre version, c'est écrit, alors l'ange que j'avais vu se tenir debout sur la mer et sur la terre leva sa main gauche vers le ciel et jura par celui qui vit pour toujours et toujours, qui créa les cieux et tout ce qu'ils contiennent, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient, il n'y aura plus de délai, au contraire, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de son shofar, le plan secret de Dieu sera parachevé selon la bonne nouvelle qu'il a proclamée à ses serviteurs et prophètes. Vous voyez, ça veut dire la même chose, mais c'est un peu plus clair, parce que le français est très riche, l'hébreu aussi, le grec aussi, toutes les langues sont riches, et c'est bien d'avoir plusieurs versions de la Bible pour pouvoir comparer, afin d'avoir maintenant on a la télévision en 3D, c'est quand même bien, hein. Eh bien, nous avons comme ça, quand nous avons plusieurs versions, ben nous avons plusieurs dimensions, parce que les mots sont très riches. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces histoires de sept tonnerres? Je crois que ceux qui sont dans la communauté s'en souviennent, c'était l'époque où on recevait des branhamistes au château et où ils nous parlaient des sept tonnerres. Alors, je comprenais pas grand-chose à ce qu'ils disaient là-dessus, et j'essayais de comprendre, et puis de temps en temps, il me semblait avoir un éclair de lumière, mais même les prédications de William Branham me semblaient quand même pas très claires à ce sujet-là. Il disait, oui, ça a passé très vite, j'ai pas eu le temps de voir, mais je peux dire que... Enfin, c'était un peu compliqué. Et ces branhamistes disaient que les sept tonnerres étaient révélés. Alors, ils n'arrêtaient pas de le dire. Alors, je me souviens qu'un jour, j'étais en voiture avec le fils d'un de ces pasteurs qui s'appelait les pasteurs... Enfin, c'était le groupe des sept tonnerres, n'est-ce pas? Alors, j'étais avec lui dans la voiture, c'était pas un garçon taré, idiot, crétin et tout, il était ingénieur de je ne sais plus quoi, c'était quelqu'un d'intelligent. Alors j'ai dit, tiens, je vais lui poser la question, qu'est-ce qu'ils ont révélé alors ces sept tonnerres? Ils ont dit quoi? C'est écrit que c'est sous le sceau du secret et vous vous dites qu'ils sont révélés. Alors ils ont dit quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, il m'a répondu, j'en sais rien. J'ai jamais rien compris à tout ça, mais voyez ça avec mon père. Alors, lui, il jouait du piano dans l'église, il chantait, il levait les mains, il louait le Seigneur et tout. Et quand son père parlait des sept tonnerres révélés, il disait « Amen !» et tout. Mais voilà, il savait pas, il comprenait pas. Moi, je déteste croire quelque chose que je comprends pas. Je peux pas, j'ai de la peine. Alors je cherchais à comprendre, j'ai écrit deux trois petits trucs, j'ai prêché deux trois petits trucs là-dessus, essayant de comprendre un peu ce que ça pouvait. Mais j'avais de la peine. Donc, en tout cas, je me suis aperçu que j'étais pas le seul à pas comprendre. Lui, il a eu le courage de me le dire, et il a pas essayé de me baratiner en me disant que des élucubrations comme des fois on peut entendre dans certains milieux. En fait, personne, ni même Branham, n'a osé dire ce qu'ont dit les sept tonnerres. Faut être clair. Voilà. Mais bon, je cherchais à comprendre et, je trouvais des petites explications par-ci par-là. Il semblait que tel verset allait avec tel verset. Mais bon, c'était pas très concluant. À la fin, quand on a arrêté, c'est que vraiment, il commençait à aller un peu loin. Il parlait du sang des sept tonnerres. Vous vous rappelez de ça? C'est infernal. Le sang des sept tonnerres. Ils ont même sorti une brochure là-dessus. Bon, on a fini par laisser tomber les sept tonnerres, et puis aussi les branhamistes, mais pour d'autres raisons. C'est parce que c'était trop légaliste, c'était pénible, c'était difficile de voir comment surtout ils traitaient les femmes, c'était... Cependant, dans Marc 4, 22, il est écrit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. » Et dans Jean 16, 13, il est dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Dans Apocalypse 2, 17, il est dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il faut croire que j'ai pas d'oreilles pour entendre. Non, c'est pas ça. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, donc il y a des choses cachées que Dieu va donner à certains, ceux qui ont les oreilles, pour entendre, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Alors voilà, nous vivons un temps spécial. Ça, tous les chrétiens en ont conscience. Enfin, je dis au moins tous les chrétiens qui lisent les Écritures, les chrétiens qui vont juste à l'église à Pâques, au baptême du petit, et puis ils ne savent peut-être pas, mais enfin les chrétiens avertis qui lisent la Bible, ils savent qu'on vit une époque particulière et que nous sommes à la veille de la venue de Jésus qui va enlever son épouse. Son épouse, on sait que c'est une partie de son église, ceux qui sont fidèles dans son église et qui vont être enlevés sous les nuées du ciel avec lui. Alors on sait pourquoi on sait que c'est proche, ben parce que Jésus a dit, voici les signes qui arriveront avant, n'est-ce pas, que je vienne vous chercher. Donc on a des signes, ces signes sont là, le plus gros c'est Israël qui est redevenu une nation. Il faut savoir que quand Israël est redevenu une nation, ça faisait 2500 ans qu'elle n'était plus, que ce pays n'était plus une nation. Et voilà, c'est arrivé pendant notre génération. Et puis, il y a d'autres signes encore. Donc, voilà. Nous vivons à l'aube de quelque chose de très important. Nous vivons à la fin de ce que nous croyons être la tyrannie de l'esprit du mensonge. Parce que maintenant, il y a tellement d'histoires qui se racontent au sujet de Dieu, de Jésus. C'est vrai que les gens ne savent plus où ils en sont. Alors, est-ce que vous êtes une secte? À la fin nous arrivons à la fin de l'esprit de ce monde mensonger, à la fin de ce règne de l'esprit mensonger, religieux, qui trompe les gens, qui raconte des histoires, des fables, des trucs invraisemblables. Souvenez-vous que dans notre chapelle, au château, j'avais fait un vitrail qui s'appelait Hors Âge. Vous vous en souvenez? D'ailleurs, on l'a mis en photo sur Révélation Vie, vous pouvez le voir. Hors Âge. Pourquoi Hors Âge? Eh bien, parce que j'avais quand même compris que le septième âge de l'Église s'est terminé. Vous allez entendre ces prochains vendredis, je développe en ce moment toute une étude au sujet des sept âges de l'Église, des sept périodes principales de l'histoire de l'Église qui sont prophétisées dans l'Apocalypse et dont on peut maintenant voir l'accomplissement, parce qu'on a l'histoire de l'Église qui nous prouve que les prophéties sont accomplies. C'est pas bien compliqué, vous lisez l'histoire de l'Église, vous lisez ces prophéties, vous voyez que ça colle parfaitement, et on voit que il y a encore quelques années, on était dans le dernier âge, mais maintenant c'est fini, c'est terminé. L'âge, le dernier âge de l'Église, c'était l'âge de Laodicée. Et vous verrez, Dieu n'est pas tellement doux avec eux. Il leur dit, voici, tu n'es ni tiède, tu n'es ni chaud ni bouillant, mais voici, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est-à-dire que l'Église est devenue dégoûtante. Dégoûtante. Dégoûtante pour qui? Pour Dieu, et puis pour ceux qui sont amoureux de la vérité aussi. Alors c'est terminé, l'âge de l'Odyssée c'est fini, donc nous sommes hors âge, nous sommes dans un temps de la patience, où la patience de Dieu se prolonge pour le salut de ceux qui sont prédestinés, n'est-ce pas, au salut. Et c'est comme l'âge de Jéhovah, si vous voulez, ça a pris fin à l'arrivée de Jésus. Quand Jésus est venu au monde, c'était une nouvelle dispensation, et nous sommes dans une nouvelle dispensation. C'est pourquoi on voit les églises se vident, il y a des scandales partout, je suis désolé, mais c'est comme ça, il n'y a pas besoin d'être très malin pour s'en rendre compte. Et l'âge de l'Église a pris fin dans les années 70, comme nous l'avait prophétisé William Branham, qui avait dit, je ne prophétise pas, mais je prévois d'après les événements, d'après ce qui se passe, je pense que dans les années 70-77, ça sera terminé. Et moi, j'ai vécu cette époque-là. Je me rappelle, je me suis converti en 1968. À l'époque, dans les églises, il y avait des miracles, il y avait de la puissance de Dieu qui se manifestait. C'était pas simplement des gens qui se réunissaient pour blablabla, mais il y avait vraiment la puissance de Dieu qui se manifestait. Et vers 1974-77, ça a tourné, ça a changé. On aurait dit que le chandelier était enlevé, que la lumière était enlevée, qu'il ne restait plus que de la parlotte, de la morale, mais plus rien, plus de l'humanitaire aussi, ce qui est pas mal, mais plus de la puissance miraculeuse. Ma femme me fait signe en me disant oui, c'est vrai, tous ceux qui étaient là à cette époque savent qu'il y a eu quelque chose qui a changé. Alors, où est-ce que nous en sommes, nous, qui sommes sortis, parce que la Bible dit sortez du milieu d'eux, c'est-à-dire de tous ces clubs religieux qui s'appellent chrétiens. Alors, sortez du milieu d'eux afin de ne pas être punis. Nous ne voulons pas participer à leurs œuvres mauvaises. Donc, nous sommes sortis. Alors, évidemment, ceux qui sont encore dedans disent de nous que nous sommes une secte. Ah, c'est comme ça. Quand les apôtres ont créé l'église à Jérusalem, les juifs religieux ont dit ça, c'est une secte. C'est toujours comme ça. Quand les pentecôtistes sont sortis des baptistes, les baptistes ont dit ça, c'est une secte. C'est toujours comme ça. C'est un réflexe humain. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut réfléchir. Alors, dans quel temps nous sommes? Dans quel âge nous sommes? Eh bien, nous ne sommes plus dans les sept âges de l'église, mais nous sommes hors âge. Nous sommes dans le temps de l'esprit de vérité. Maintenant, nous sommes dans l'âge de la révélation, c'est-à-dire l'âge de l'apocalypse. Le mot apocalypse ne signifie pas catastrophe, ça signifie révélation. Alors, on regarde des informations à la télévision et ils nous parlent du pont de Gênes qui s'est écroulé. Ils disent « Oh, c'était apocalyptique ». Eh ben, il faudrait qu'ils apprennent à parler français parce que c'était pas apocalyptique, c'était épouvantable, c'était atroce, c'était affreux, c'était une catastrophe. Mais c'était pas apocalyptique. Apocalyptique, ça veut dire révélation. Je vois pas où il y a une révélation dans le pont de Gênes qui s'est écroulé. Quand il y a un tremblement de terre ou un ouragan ou des choses épouvantables, vous avez des morts, ils disent, oh, c'était une scène apocalyptique. Non! Ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire catastrophe, apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation. Hein, vous savez pas ce qu'il y a derrière sur mon pupitre. Si je vous le montre, ah, c'est une révélation, c'est un apocalypse. Voilà, c'est comme ça. D'accord? C'est pas plus compliqué. Donc, dans l'âge de la révélation, de quoi? De la vérité par l'esprit de vérité. Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille parce que le Saint-Esprit viendra et vous conduira dans toute la vérité. Et tous ceux qui n'ont pas quitté les églises et qui sont encore agglutinés dans leur club là-bas, dans leurs églises, eh bien, tout cela se trouve avec de la vieille manne séchée. C'est ce que c'est la vieille manne séchée. Quand Moïse était dans le désert, il traversait le désert avec le peuple, et ils ont commencé à râler parce qu'ils n'avaient pas une nourriture correcte. Alors Dieu leur a envoyé tous les matins, il y avait la manne qui tombait du ciel, c'était comme du pain qui avait un peu le goût de miel, c'était délicieux, ils ont mangé ça. Mais il fallait en manger le jour même. Il fallait pas en garder pour le lendemain parce que sinon elle devenait mauvaise. Et aujourd'hui, ben, il y a une manne qui est donnée par Dieu, mais dans les églises, non, il n'y a pas. Ils mangent de la vieille manne des années 50, des années 60. Ils mangent toujours les mêmes vieux trucs. Ils le savent! Ils disent! Quand on va dans les églises, c'est toujours les mêmes prédications, c'est toujours les mêmes histoires. Sur la mer calmée, Jésus qui marche sur l'eau, le paralytique guéri, les machins, les histoires d'il y a 2000 ans en arrière, c'est toujours, ils racontent toujours ces mêmes histoires. Ils mangent une nourriture qui est périmée depuis longtemps, ils se sentent mal, mais ils savent pas pourquoi, et quand on veut leur dire, ils nous disent qu'on est une secte. Voilà, bon, bah écoutez, s'ils se plaisent avec leur manne, machin, nous on a eu des invités là dernièrement, Charef et Lucia, qui venaient d'Italie, des amis formidables, et ils nous ont fait des petits plats, j'en mets l'eau à la bouche. C'était fantastique, ils nous ont aussi apporté des bons vins, et c'était très bien. Mais par exemple, le plat qu'ils nous ont fait le soir, là, avec les moules et tout ça, si on avait voulu le manger le surlendemain, attention, les moules, hein, c'est dangereux, hein, si c'est pas frais. Eh bien, voilà, ils ont des espèces d'indigestion, n'est-ce pas, dans les milieux chrétiens, et ce qui fait que, ça devient un peu la cata. Enfin, moi, je j'aime pas ce genre de truc, donc j'y vais pas. Je vais dans les églises seulement quand on m'invite pour prêcher, voilà. Et j'y vais souvent, mais Autrement, je ne veux pas que ce que j'aille là-bas m'asseoir et puis manger une vieille manne séchée que je connais déjà depuis 50 ans, ça ne sert à rien. Donc nous sommes hors âge de l'Église. Maintenant, les branhamistes se trompent. Les branhamistes se trompent. Branham n'est pas le septième ange d'Apocalypse 10. Je dis ça au cas où il y aurait des branhamistes qui nous écouteraient. Vous avez vu, le septième ange, lorsque le septième ange viendra, il n'y aura plus de délai. Hein. Mais Branham est venu, et puis lui, il n'a jamais dit qu'il était le septième ange d'Apocalypse. Hein. Mais les branhamistes ont dit, voilà, c'est lui. Bon, ben maintenant, il est mort depuis 65. La Bible dit, quand il viendra, il n'y aura plus de délai. Depuis 65, on est en 2018. Bon, ben ça fait quand même un petit moment, hein. Combien ?
Plus de 60 ans.
Voilà, c'est terrible. Non, pas tout à fait.
Non, pas 60.
Pas 60. Hein ?
Moi, je suis né en 58.
Notre comptable. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même bon, voilà. Je veux bien qu'il soit le septième ange d'Apocalypse 3.14, quoique maintenant, je pense plutôt que c'est Joseph Smith. Mais enfin, bon. En tout cas, l'âge de Laodicée, c'est terminé. Et le septième ange d'Apocalypse 3, ça n'est pas le même septième ange d'Apocalypse 10. C'est d'autres faits, c'est d'autres histoires avec d'autres anges qui ont fait d'autres choses. Point barre. Il faut arrêter de tout mélanger et de faire une bouillabaisse avec. C'est indigeste, c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est pas juste. Branham a été l'envoyé de Dieu, c'est vrai, pour cette époque, sur notre terre, il a été ce que la Bible appelle le signal donné. Ça, peu de chrétiens le savent. On trouve ça dans 1 Thessaloniciens 4, 16. Je vous le lis. Apocalypse. 1 Thessaloniciens 4, 16. Où il est dit, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc avec ces paroles. Voyez donc, il y a trois choses avant l'enlèvement dont les eschatologues ne parlent jamais. Vous écoutez Pierre Gilbert, il ne parle jamais de ça. Vous écoutez Claudine Yerski, il ne parle jamais de ça. Il y a trois choses. L'enlèvement, c'est en trois phases. Il y a premièrement un signal qui est donné. Dans d'autres versions, un cri de rassemblement, pour se rassembler autour de la parole. Ensuite, il y a la voix d'un archange. Et puis, c'est seulement après qu'il y a la trompette de Dieu qui sonne et on part dans l'enlèvement. D'accord ? Donc, Branham a été ce signal donné. Mais attendez, c'était quelque chose d'énorme. Je crois pouvoir dire, sans me tromper, parce que c'est quand même quelque chose qui est connu, que depuis Jésus, il n'y a jamais eu un homme qui a eu autant de miracles, autant de résurrections, autant de révélations, autant de choses extraordinaires dans sa vie. Lisez la biographie de Branham, c'est surprenant. Bon, il a dit des bêtises. C'est vrai qu'il a dit quelques bêtises, comme par exemple que la femme avait une côte de plus que l'homme, parce que Adam, Dieu lui avait enlevé une côte pour fabriquer sa femme. Et, voilà, c'était un monsieur qui n'avait pas une grande instruction, mais il était inspiré de Dieu pour beaucoup de choses. Alors prenez ce qui est bon, puis laissez ce qui n'est pas bon, faites ce que la Bible dit. Mais les gens, ils rejettent tout sous prétexte qu'il a dit une bêtise ou deux. C'est dommage, il ne faut pas tout rejeter. Et parce qu'ils ont tout rejeté, ils ne savent pas ce que le signal montre. Un signal qui est donné, c'est ce que c'est un signal au bord de la route. Ça montre la direction. Eh bien, ils ne savent pas dans quelle direction ils doivent se diriger. Et ils ne savent pas où ils sont. Et puis voilà, donc ils se perdent. Moi, je me rappelle, j'avais été visiter la forêt de Brocéliande. Et puis, j'étais intéressé par... moi, je suis très curieux, donc j'étais intéressé par tout ça. Et puis, je me promène là-dedans et je trouve rien de ce que je cherchais. Donc, j'ai été au comité d'accueil... là-bas, et puis je demande, elle me dit, oh, mais vous savez, les panneaux, les signaux, il y a des elfes, toutes les nuits, qui les tournent pour tromper le public. Elle m'a fait rigoler, j'ai dit, bon, d'accord, j'ai pas voulu la contrarier, parce que j'ai vu que ça fait partie de la légende. Et donc, c'est des elfes, n'est-ce pas, qui tournent les panneaux pour nous tromper. Il est évident que c'est pas vrai, mais c'est rigolo. Et je dis qu'en ce moment, les gens, ils savent plus quel panneau suivre, ils savent plus où ils en sont, ils cherchent, ils arrivent dans des voies, des sans-issues, des machins, des fois même ils roulent à contre-sens, ils sont perdus dans leur truc de religion. Parce que ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas regardé la direction que Branham donnait, le signal donné, c'était un signal qui était donné par Dieu, qui a fait son temps, il est parti, maintenant c'est autre chose. Mais après lui, doit venir quelque chose d'autre. Il nous est dit, un archange, la voix d'un archange, c'est pas une personne, c'est une voix. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est une voix, c'est quelque chose qu'on entend, hein, et c'est pas une personne, donc ça peut être plusieurs personnes, ça peut être plusieurs groupes, ça peut être, c'est une voix. Un archange, c'est quoi? C'est un super envoyé. Le mot ange signifie, ça veut dire envoyé, et arc, c'est le préfixe grec qui signifie super. C'est un super envoyé. Eh bien, ce super envoyé qui fait entendre sa voix partout dans le monde, c'est l'épouse de Christ qui est prête et qui a entendu le cri au milieu de la nuit, attention, l'époux vient, et qui a pris ses lampes et qui les a allumées et qui partent à la rencontre de l'époux. En ce moment, c'est ça, nous sommes en train de sortir de tout ce sommeil spirituel où dorment les vierges sages et les vierges folles, et puis on est en train de marcher à la rencontre de l'époux, c'est-à-dire qu'on progresse dans le bon sens, dans la bonne direction. Et puis les vierges folles nous disent, mais est-ce que vous êtes une secte, ah tiens, mais vous êtes de la lumière, mais tiens, est-ce que c'est de la vraie lumière, est-ce que c'est de la fausse lumière, mais qu'est-ce que c'est, mais nous on n'en a pas, qu'est-ce que c'est que ça? Alors nous on leur dit, ben écoutez, puis on a un message pour eux, allez en acheter chez ceux qui en vendent, hein, vers tous ces prédicateurs de l'abondance, hein. Vous voyez, parce que c'est un petit peu cynique, mais voilà, c'est ça. C'est trop tard, c'est presque trop tard pour beaucoup. Parce qu'ils sont tellement encroutés dans les erreurs et dans les trucs bizarres, qu'ils passeront par la grande tribulation, c'est malheureux à dire, mais voilà, c'est comme ça. Et quand la grande tribulation viendra et que vous réécouterez mes messages, parce que vous les écouterez, ils seront encore sur Internet, ben on dira, ah ben oui, il avait raison. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça sera trop tard. Alors, un archange, c'est donc un super envoyé. Et ce super envoyé, le dernier envoyé important dans le monde, c'est l'épouse de Christ qui se manifeste. L'épouse de Christ se manifeste à la manière de son époux. C'est-à-dire, c'est pas seulement en parole, mais c'est aussi en démonstration d'actes de puissance, de miracles et de choses comme ça. Et d'enseignement correct, d'après l'époux, d'après ce qui est écrit dans les Écritures. Et elle remet les choses en place, elle remet les choses en ordre. Une bonne épouse, elle met son appartement en ordre. Hein, aujourd'hui, là, on a eu des invités pendant 3-4 jours, on a tout changé, on a mis des tables, on a mis des trucs, mais qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu rien du tout. Pourquoi? Parce que on a tourné en ordre et c'était le rôle de mon épouse. Mon épouse a dit, Michel, tu peux m'aider à porter la table, Michel, est-ce que tu peux faire ci, Stéphane, voilà, c'est le rôle de l'épouse. Et bien, c'est ce que l'épouse est en train de faire maintenant dans ce monde et surtout pour le bénéfice de l'Église, remettre les choses en ordre, les choses qui sont du système de ces églises. Et puis elle s'en va à la rencontre de son époux. Elle a en elle l'esprit de vérité. Un jour, j'étais à Yaoundé et je prêchais et je voyais que les gens étaient en train de regarder leur montre. Ils ne s'intéressaient pas à ce que je disais parce que c'était trop différent de ce qu'ils entendaient d'habitude. Et j'ai dit, maintenant, écoutez-moi pour vous prouver que ce que je suis en train de vous dire là, c'est vrai. Il va y avoir un miracle. Vous, madame. Et j'ai appelé la personne. Elle avait une maladie, elle avait une jambe plus courte que l'autre. Et au nom de Jésus, j'ai rallongé cette jambe. Et alors là, tous, ils étaient stupéfaits. Et alors après, ils ont écouté. Vous comprenez la chose? Les miracles sont là pour confirmer que ce qu'on dit est vrai. Ça se trouve dans Marc au chapitre 16. Donc, Mais l'apôtre Paul dit, mais moi je suis pas venu avec du blablabla. Je suis venu avec des démonstrations de puissance. Et mon frère Nicolas Savadogo, qui est partout avec moi tout le temps quand je fais mes tournées, il peut vous dire, vous témoigner, c'est pas arrivé qu'à Yaoundé, ça arrive dans presque chaque tournée. Il y a même un pasteur au Bénin, à Cotonou, qui m'a dit, écoute tes prédications, fais-nous des miracles, on préfère ça. Je dis non. Tu écoutes d'abord mes prédications et ensuite il y aura des miracles. Parce que les miracles sont là pour confirmer que ce que j'ai dit est vrai. Vous voyez ce que c'est? Ça, c'est ce que la Bible dit. Jésus confirmait sa parole en les accompagnant par des miracles et des prodiges. Ça n'a pas changé, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est du spectaculaire. Alors, comme ils n'ont plus de miracles, maintenant, ils trouvent d'autres trucs, ils se roulent par terre, enfin, bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Bon, en elle, dans l'épouse, dans ce super envoyé, il y a l'esprit de vérité. Cet esprit que Jésus avait promis à ceux qui obéissent. On trouve ça dans Actes chapitre 5, verset 32. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour ceux qui demandent. Bien sûr que c'est pour ceux qui demandent, parce que si vous ne demandez pas, vous ne risquez pas de recevoir. Mais ceux qui demandent doivent être des gens obéissants. Actes 5, 32, j'ai dit. Hein. Nous, c'est l'apôtre qui parle, il dit, nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous voyez ? Le Saint-Esprit est témoin comme nous sommes témoins, mais le Saint-Esprit nous a été donné parce que nous obéissons. Il n'est pas donné à ceux qui pensent que leur christianisme c'est suffisant. Je paye mes impôts, je suis gentil, je suis poli avec mon voisin, et puis je fume plus, puis je me saoule plus la figure, et puis ça suffit. Puis je vais à la messe de temps en temps, et puis. Puis on m'a mis 3 gouttes d'eau sur la tête il y a 50 ans, et puis ça suffit, voilà, ben, Dieu a qu'à se débrouiller avec ça, s'il n'est pas content, mais comment ça, il est difficile, ça, quand même, je vais à la messe, puis je donne 20 centimes, mince, à la fin. Je rigole un peu, là, mais c'est un petit peu ça, quand même. Moi, je vous rappelle, j'ai été protestant réformé de l'Église nationale suisse. Je sais très bien ce que c'est que d'être un chrétien, un peu endormi. Bon, beaucoup endormi. Mais pas méchants, ils sont pas méchants du tout, ils sont très gentils, si vous voulez. Hein. Ils vont pas aller poser des bombes, par exemple. Quoique, c'était arrivé quand même à Villeurbanne, un fada qui a été posé, un chrétien, hein, qui a été posé une bombe chez le pasteur Stalin. Je m'en souviens, j'étais dans cette église quelque temps avant. Bon. Donc, après cela, Dieu sonnera de sa trompette. C'est lui, ça sera sa manifestation. Pour le moment, il y a eu la manifestation du signal donné, un homme. Après la voix de l'archange, c'est-à-dire du super envoyé, l'épouse de Christ juste avant l'enlèvement, et puis ensuite la trompette de Dieu. Et là, nous serons enlevés dans les nuées du ciel. C'est ce qui est écrit. Je ne peux pas vous dire des choses qui ne sont pas écrites. Je suis là pour prêcher la parole de Dieu et non pas pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous dire ce qui est écrit afin que vous sachiez ce qui est écrit. Alors, nous sommes dans l'âge où tout doit être découvert, mis à nu, révélé. C'est cela, Apocalypse. C'est que tout doit être révélé. C'est la révélation de la vérité. C'est la révélation de qui est, qui était et qui sera éternellement Jésus. Et aussi, quelle est la bonne nourriture, la bonne manne à manger. Et aussi, des choses cachées. Je te donnerai une manne qui était cachée. Il y a des choses qui ont été cachées et qui sont maintenant, qui ne sont plus cachées, qui sont révélées. Mais qui vous dit ça? Hein? On va demander à notre voisine qui est allée à la messe, on va lui demander, alors, qu'est-ce qui vous a révélé, votre curé? Rien, tout ce qu'il va leur dire aujourd'hui, ils le savent déjà depuis, ça fait quoi, 50 ans qu'ils vont dans cette église? Voilà, c'est terrible. Nous sommes à une époque très particulière, le temps de la fin des nations, nous dit la Bible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le temps de la fin des nations? Ben, il y a deux côtés, il y a le temps de la fin des nations, c'est-à-dire la mondialisation, on ne peut pas dire qu'on n'y est pas, et puis c'est aussi le temps de la fin de l'Église dans les nations. Quand l'épouse de Christ sera enlevée, il y aura encore des églises. Ils ne verront même pas tellement la différence pendant quelque temps, jusqu'à ce que l'Antichrist commence à se manifester, mais il y aura toujours des églises. Hein. Mais l'épouse, elle, aura été enlevée, aura disparu. Nous sommes au temps de la mise à nu de tout et de tous. Chacun va devoir montrer son jeu. Chacun va devoir montrer son drapeau, son étendard. Chacun devra afficher dans quel camp il est. Et qui est qui ? On va voir qui est qui. Ça va se savoir. Ça, c'est un pigeon. Ça va se savoir. Vous comprenez, mes frères et sœurs ? Nous sommes à la veille de la moisson. C'est-à-dire que maintenant, c'est mûr. Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez ? Jésus a semé, et puis il faut attendre que ça soit mûr avant de faire la moisson. J'en verrai mes moissonneurs, les anges, pour moissonner. Et quand il y a la moisson, ben, il y a la séparation de l'ivraie et du bon grain. Au temps de la séparation, il y a la séparation des hommes de paille et des hommes de blé. Les femmes aussi. Et les enfants. Et depuis que l'Église a été enterrée dans les conciles, à Nicée, à Carthage et tout ça, où elle est définitivement morte, qu'est-ce qu'elle a fait, cette Église ? Elle était enterrée, mais elle a poussé une longue tige pendant des siècles et des siècles. Et puis il y a eu des feuilles qui sont venues, et c'était très joli, mais ça ressemblait encore, n'est-ce pas, à de la mauvaise herbe. Et puis en haut, il y a eu un épi qui a poussé, et puis sur cet épi, il y a eu des grains qui sont venus, semblables aux grains qui avaient été semés. Ça, c'est l'histoire de l'Église. C'est ce que je vais vous raconter tous les vendredis. J'ai déjà commencé il y a deux vendredis, mais je vais continuer pendant quelques vendredis pour vous enseigner l'histoire de l'Église. Cette paille, cette tige qui a poussé suite à l'enterrement de la véritable Église à Nicée et à Carthage. Donc, nous sommes à l'époque où la paille qui a soutenu l'épi va être jetée au feu, sans aucun état d'âme. Dieu va jeter ça au feu sans aucun état d'âme. C'est quand même terrible. Nous sommes à l'époque où les feuilles, sur cette tige sur laquelle se trouve l'épi, va être jetée au feu sans état d'âme. Et seuls les grains resteront et seront engrangés. Jésus a dit qu'il venait pour engranger, pour mettre dans sa grange ses grains. Mais avant cela, avant de mettre les grains dans la grange, il faut que la balle soit retirer. Vous savez pas ce que c'est la balle, parce que peut-être vous vivez dans une ville et vous avez jamais regardé comment ça se passe. Rachel le fait comme ça, elle a vécu à la campagne, elle sait, moi aussi j'avais des champs de blé devant chez moi. Eh bien, sur un épi, vous avez des grains, et autour du grain, il y a une petite peau qui protège. Elle a exactement l'apparence du grain, mais c'est pas le grain. Il faut l'enlever. Alors, autrefois, on avait, maintenant c'est tout électrique, avec des grosses machines qui font ça, mais à l'époque, on avait ce qu'on appelait un vent ou un fléau. Vous avez jamais entendu parler de ça? C'est un grand truc en bois, il y avait une petite chaîne et puis un autre truc en bois, puis alors on faisait charge, on tapait le blé, on le tapait pour séparer la balle et le grain. Et comme la balle est plus légère que le grain, eh ben, on provoquait des courants d'air qui faisaient que la balle elle s'envolait dans la poussière, et puis voilà, puis il restait plus que le grain. Et avec ce grain, on pouvait faire du pain. Voilà. Ok? Donc, en ce moment, l'Église, elle ressemble à la vraie Église, mais c'est pas ça. Il y a encore la balle. Il faut l'enlever. Il faut enlever ça, parce que ça se mange pas. On peut pas manger la balle, c'est pas bon. Il y a qu'un essayé, ils ont eu des problèmes. Donc, la balle, c'est cette petite peau, il faut. Et Jésus vient, la Bible dit, c'est dans Luc 3, 17, si vous voulez le lire. Luc 3, 17, c'est... raconte pas des bobages. J'aimerais vous dire des choses gentilles qui réjouissent et puis qui vous font chaud au cœur, mais... Alors, c'est écrit là, lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu, il a sa pelle ou son vent à la main, il nettoiera son aire de battage, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et dans la petite note, là, c'est écrit pelle, littéralement pelle à vanner, instrument permettant de séparer le grain de la balle et de la poussière. Voilà. Je ne raconte pas des trucs pour vous embêter, pour vous dire, regardez, c'est moi qui ai raison. Je m'en fiche si vous pensez que j'ai tort ou que j'ai raison. Moi, ce qui compte pour moi, c'est de communiquer la vérité. Et depuis que nous sommes sur Facebook, on n'a jamais eu autant de monde. On a des milliers de personnes qui écoutent, mais vraiment des milliers de personnes qui écoutent. Et parmi ces milliers, il y en a beaucoup qui croient ce que je leur dis, qui me remercient, qui sont contents et qui changent. Et puis il y en a deux ou trois qui m'insultent. Voilà, bon, ben, c'est comme ça, c'est normal. Mais ce que je veux, moi, c'est partager avec vous la vérité, parce que c'est important, c'est important. La balle s'en va au vent, et puis voilà. Jésus ne veut que le blé, que les grains qui sont exactement comme ce qui a été semé, ce qui a été mis dans la terre. À Nicée, à Carthage, l'église catholique naissante a commencé à dire c'est comme ça, puis c'est pas autrement, puis tous ceux qui croient pas comme nous, on les persécute et tout, c'est là qu'ils ont inventé plein de trucs. Et maintenant les gens, ils prennent ça pour des choses normales, ils pensent que c'est la norme. Mais non, c'est pas la norme. Ce qui est juste, c'est ce qui est écrit dans la Bible, pas dans leur credo. Moi je l'ai là, le credo. Je l'ai dans mon bureau. C'est écrit, si vous croyez pas dans l'église catholique, vous êtes perdu. C'est écrit le mot catholique. Alors les protestants, ils ont pris le même credo, ils ont enlevé catholique, ils ont marqué universel. Ce qui veut dire la même chose. Mais n'empêche que les catholiques croient que c'est eux qui ont la vérité, que si on n'est pas Jésus, on est perdu. Les protestants croient la même chose, les évangéliques croient la même chose, tous croient. Tous. Moi, je ne dis pas qu'il faut croire comme moi pour être sauvé. Je vous dis, je vous informe de ce que la Bible dit. Maintenant, vous, après, c'est à vous de savoir dans votre conscience, dans votre cœur, dans la prière devant Dieu, où vous en êtes, vous. C'est ça qui est important. Alors, les 7 âges de l'Église, de Paul à Joseph Smith, en passant par Branham et tout ça, c'est terminé, c'est fini tout ça. C'est fini. Maintenant, l'âge de l'épouse, la voix de l'archange de 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, c'est ça, c'est l'âge de l'épouse, c'est l'âge où elle parle, où elle se manifeste, où elle produit des miracles. Moi, je me rappelle, j'ai été reçu par un grand prédicateur qui est aimé partout, il s'appelle Mamadou Karambéry. J'ai prêché là-bas, à Ouagadougou, c'est lui qui a la plus grande église. Alors, maintenant, il commence à être un peu contesté, mais il y a encore une énorme majorité, des milliers. Il a des milliers de membres, c'est quelque chose de terrible. Il m'a invité, j'ai prêché plusieurs fois chez lui, et il y a eu des miracles, il y a eu des aveugles qui ont retrouvé la vue, c'était formidable. D'ailleurs, tout ça s'est filmé, il y en a quelques-uns sur Révélation Bible, comme témoignage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un jour, il m'a pris dans son bureau, il m'a dit, Michel, j'arrive pas à comprendre pourquoi les assemblées de Dieu t'invitent encore avec le message que tu leur balances. Il me dit, je crois que la seule raison pour laquelle ils t'invitent, c'est parce qu'il y a des miracles. J'ai dit, parfaitement, exactement, j'en suis complètement conscient. Mais n'empêche que le message passe, c'est ça qui est important. Les gens venaient parce qu'ils suivaient Jésus, pourquoi ? Jésus n'était pas dupe, c'était pas un idiot. Il dit, vous ne me suivez pas parce que vous aimez ce que je dis, mais vous me suivez parce que je vous nourris. Il leur donnait du pain, du poisson, il les nourrissait. Alors vous me suivez pour ça, vous me suivez pour les miracles, mais vous ne me suivez pas pour faire ma volonté, pour faire ce que je dis. Il en était parfaitement conscient. Et quand il est décédé, vous savez combien il avait de disciples? Au bout de 3 ans et demi, il n'y en avait que 120. Il avait une petite église de 120 personnes. Vous imaginez, avec tous les miracles et toutes les choses extraordinaires qu'il a faites, les gens n'aiment pas la vérité. Et il n'y a rien qui a changé, c'est toujours pareil. On préfère, n'est-ce pas, le temple majestueux avec les bonnes odeurs d'encens, et puis les habits somptueux des prêtres, et puis leurs chapeaux pointus sur le tutu, et puis voilà, et puis leur éloquence, n'est-ce pas, parce qu'alors ils ont une autre façon de parler que moi, c'est beaucoup plus les mots recherchés, et voilà, moi je parle comme ça vient. Alors Jésus a vu. Jean a vu et entendu tout cela. Quand il était là sur l'île de Patmos, il y a 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Et il allait écrire ce qu'ils ont dit. Et Jésus, l'ange a dit, non, n'écris pas ça. Il faut cacher ça, il ne faut pas qu'il sache ça. Il lui était interdit d'écrire le moindre mot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que les gens ont commencé à avoir une foi aveugle, un mysticisme religieux, de la superstition, du légalisme, de la sainteté à l'huile de coude, des mensonges chrétiens, des religions, de la religion. Jusqu'à en dégoûter les gens qui ont l'esprit de vérité. C'est, quand Dieu dit « je les vomirai de ma bouche », mais comment voulez-vous que ceux qui ont l'esprit de Dieu admettent ça, cette perversion qu'on trouve partout maintenant dans ces milieux religieux. Nous aussi on est dégoûtés. C'est pourquoi on est sortis de tout ça. On a une raison pour quitter ce nid de vipère pharisianiste, pour quitter la tige, les feuilles, les pies, et même la balle. Tout ça, ça nous a nourris, si vous voulez, la tige, c'est là qu'il y avait la sève qui montait jusqu'au grain, les feuilles pour protéger, faire de l'ombre, tout ça, ça nous a servi, mais maintenant, c'est devenu dégoûtant, donc on rejette ça. Dieu va le jeter, nous, on est d'accord avec Dieu, il faut jeter ça. C'est fini, ça, c'est terminé. Il faut aller plus loin, il faut connaître, il faut savoir. L'autre jour, je vous ai dit, ça ne suffit pas de croire, il faut savoir. Afin de pouvoir devenir des épis, des grains qui sont mûrs, qui sont adultes, comme dit la Bible, des hommes faits à la stature parfaite de Christ. On trouve ça dans Éphésiens 4, 11, 16. Il dit, c'est lui, donc Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme enseignants, bergers. Il l'a fait pour former les saints, c'est-à-dire vous, les vivants, pas les morts, pour former les saints. Où est-ce que j'en suis là? Pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté dans des manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est à la tête que nous devons obéir. Jésus, la tête. Il nous a laissé sa parole, nous devons l'écouter, nous devons la comprendre, nous devons chercher. Alors, il y a des choses qui sont encore cachées, mais qui sont de plus en plus révélées. Parce qu'il a dit qu'il reviendrait au temps du rétablissement, de la révélation de toutes ces choses. Et voilà pourquoi c'est important d'étudier. Vous voyez, la révélation de ces mystères cachés par les sept sceaux ne doit pas seulement être écrit par Branham le prophète, ni seulement prêché, mais il doit être vécu. C'est quelque chose qui se vit. Cette révélation, l'apôtre nous dit qu'elle est douce à la bouche, c'est comme une nourriture. C'est doux à la bouche, parce que c'est évident, parce que c'est simple, c'est bon, on comprend, c'est formidable. C'est pas de la théologie. Cette révélation, elle produit la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour vaincre la mort, hein, le dernier ennemi. Mais cette révélation, pour notre époque, elle est amère à nos entrailles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va à l'encontre de toutes les certitudes populaires, de toutes les superstitions chrétiennes populaires, et de tous les bons sentiments de ceux qui sont là, à genoux, devant la Vierge, qui est beaucoup plus gentille que Jésus, qui est beaucoup plus gentille que le Père. Des trucs bêtes, mais c'est à mourir. Et cette nourriture spirituelle des sept tonnerres, elle est à l'opposé des croyances dogmatiques et vaticanesques, je ne sais pas si ça se dit, et des naïfs crédules, évangéliques et branhamistes compris. Ça va au-delà, et c'est pourquoi c'est amer, parce que ceux qui y croient et qui partagent cela avec les autres se retrouvent critiqués, jugés, condamnés, traités d'hypocrites et de tous les noms d'oiseaux. Alors ça nous fait mal au cœur, c'est amer, mais c'est pas grave. C'est juste un temps, ça ne va pas durer longtemps. Cette nouvelle révélation, elle conduit au calvaire de l'excommunication. De l'excommunication de tous les systèmes religieux construits par les hommes. Elle conduit sur le chemin étroit, dangereux, pénible, difficile de la vie dirigée par l'esprit de vérité. Elle conduit à se libérer des superstitions légalistes pour sauter par-dessus les barrières et ces carcans de tabous religieux, de machins, c'est quelque chose d'inadmissible, c'est ça le mot. C'est presque blasphématoire pour eux, quand ils entendent ça, c'est comme si je blasphémais. Pour eux, c'est comme si je blasphémais. Et c'est pourquoi ils m'en veulent. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus ? T'es un démon. Voilà, c'est pas que je me compare à Jésus, mais c'est normal, quand vous venez dire la vérité, on vous aime pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Lisez toute l'histoire, c'est comme ça. Tous ces chrétiens qui se réclament de la Bible et l'interprètent tous différemment disent qu'elle est la plénitude de la vérité. Mais ils veulent ignorer que leur Bible parle de quelque chose de gigantesquement important que Jean a vu, mais dont il n'a pas dit un seul mot. Il allait l'écrire et l'ange a dit non. Mais à la fin, quand le septième ange pourra entendre sa voix, c'est-à-dire l'archange, alors là, il n'y aura plus de délai, ça sera dit et ça sera fini. Il l'a seulement désigné par la voix de sept tonnerres. Quelque chose de crucial existe, mais qui n'a jamais été écrit et qui n'a jamais même été révélé. C'est dans votre Bible, mais c'est caché dans votre Bible. Et tant que vous ne voulez pas écouter le signal donné, vous ne pouvez pas entendre la voix de l'archange. Et si vous n'avez pas entendu le signal donné et que vous n'écoutez pas la voix de l'archange, vous n'entendrez pas la trompette de Dieu et vous ne serez pas enlevé. Alors vous allez me dire, ben dis donc, quelle bonne nouvelle. Oui, ben si vous aviez été écouter Jean-Baptiste, c'était bien pire. Hein? Qu'est-ce qu'il leur disait aux gens? Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, etc. T'es pas gentil. Un homme de Dieu n'est pas quelqu'un qui vient pour vous caresser dans le sens du poil avec de la crème Nivea. Hein? Pas du tout, pas du tout. Mes frères et sœurs, c'est ça notre message. Écoutez les prédications du vendredi sur les sept époques marquantes de l'histoire de l'Église, ça va vous instruire, ça va vous donner des choses que vous n'avez encore pas vues, qui ont été scellées, que vous n'avez pas vues. Vous avez lu, mais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas... C'est pas possible, parce que c'est le signal donné, c'est Abraham qui a donné ça. Et vous l'avez pas, vous ne connaissez pas. Tous les bouquins sont en vente, tout ça c'est en vente, les cassettes, les CD... Maintenant, tout son message est sur une clé USB. Mais qui a ça dans les églises? Personne, ils n'en veulent pas. Ne restez pas dans l'ignorance. Quand l'envoyé de Dieu, l'épouse de la fin, donne son dernier message, après cela, il n'y a plus de délai. On l'a vu dans Apocalypse 10, 4, 11. Il n'y a plus de délai. C'est terminé. Ça peut être terminé juste quand je lui dis ramène tout à l'heure. Je prie que Dieu vous laisse encore un peu de temps, que Dieu use encore de sa patience, tel qu'il est dit dans la Bible, pour que les gens se repentent. C'est la venue de Jésus pour mettre fin aux églises apostates, en enlevant son église qu'il appelle lui-même son épouse. Bien sûr que les prêtres et les pasteurs ne vont pas vous enseigner ces choses, parce qu'ils ne les connaissent pas, ou ils les ont rejetées. Alors, ils vous donnent... Ils vous parlent d'autres signes, ils vous disent, voyez, Israël est redevenu un pays, amen, alléluia, ils sont tous là, Eben Shalom Alehem, et ça, puis ils chantent en juif, et puis ils mettent des mots juifs dans leur vocabulaire, et tout, ça fait très spirituel, c'est bien. Voilà. Et après, ils disent, oh, voyez, il y a des tremblements de terre, ben oui, voyez, la pollution, ben oui. Vous voyez, tout ce qui est dit, ça arrive. Alors, ils vont vers les païens, puis ils leur disent, vu, il y a des tremblements de terre, puis les païens disent, ouais, toujours eu. Non, ils n'écoutent pas. Parce que c'est pas ça le message qu'on doit donner. C'est pas ça le message qu'on doit donner. Ce qu'on doit donner, c'est un message vécu. Montrer comment on vit quand on est l'épouse de Christ. Vous ne connaissez pas. Alors veillez, priez, afin d'être au bénéfice de l'huile qui vous permettra d'avoir votre lampe allumée pour aller à la rencontre de Jésus. Je vous rappelle que s'il faut y aller avec une lampe allumée, ça veut dire que c'est drôlement les ténèbres tout autour. Alors que Dieu vous bénisse dans ces ténèbres et que vous puissiez avoir une lampe pour aller jusque là où il faut, pour être avec Jésus. Dieu vous bénisse. Amen.
Amen.
Merci Jésus pour ce message et aide mes frères et sœurs à prendre conscience que c'est important, que ce bavardage d'église, que tous ces scandales dans les églises, toutes ces histoires, ces chicanes, ces mâches, hein, qu'ils laissent tomber tout ça et qu'ils te suivent fidèlement. Non selon le désir de leur cœur, mais selon ta parole. Père, dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Au revoir. À bientôt.